voulons nous laisser enseigner par le Christ, et le Christ est venu nous révéler d'abord le vrai visage de Dieu, pour que nous puissions voir et comprendre les choses dans la lumière de Dieu. Il est venu nous révéler plus précisément le mystère intime de Dieu dans sa vie trinitaire. J'ai choisi d'avoir cette icône de Roublev pour que débute cet enseignement sur la passion-amour. Nous puissions contempler ce Dieu Père, Fils, Esprit-Saint, qui vit éternellement d'une vie de communion. Dieu est un mystère de communion, d'union, l'union du Père et du Fils. Le Père et moi, nous sommes un. Un dans l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, le lien d'amour, la personne amour, comme aimait dire Jean-Paul II. Et donc, en Dieu, il y a une vie d'amour qui se vit dans une unité parfaite. Et il y a aussi place pour une fécondité, puisque cet amour du Père pour le Fils est un amour qui engendre. Le Père engendre éternellement le Fils. C'est un amour qui donne la vie. Et du Père et du Fils procède l'Esprit Saint, comme aussi le fruit de leur amour. Nous allons parler, dans la première année, essentiellement de l'amour en tant qu'il fait l'unité, l'amour en tant qu'il recherche l'unité, l'union, l'union de l'homme et de la femme. Et la deuxième année, nous parlerons essentiellement de la famille, ou de la relation à l'enfant, de la procréation, donc parlons de la fécondité. Mais tout est déjà, je dirais, contenu dans cette vie d'amour et de fécondité que nous sommes appelés à vivre sur Terre. Tout est en référence à ce mystère de la Trinité. Je rajouterai que ce mystère de la Trinité, dès avant la création du monde, il s'est ouvert à nous. C'est-à-dire Dieu nous a créés pour que nous rentrions dans ce mystère, que nous vivions de cette vie d'amour, que nous participions à la fécondité divine. Donc, en réalité, par rapport au sens de notre vie, il n'y a pas de sagesse profonde sans rentrer dans une contemplation de ce mystère. Alors, je précise tout de suite que ce mystère, nous n'allons pas passer nos séances à le contempler. Il est derrière nous. C'est en arrière de tout ce que nous pouvons dire. C'est le fond de tout ce que nous pouvons dire. Et comme je vous l'ai dit, Dieu nous parle à la fois à travers la révélation divine, mais aussi à travers l'expérience. Et donc, nous allons, repartir de l'expérience. L'expérience de l'amour. Mais c'est bien d'avoir toujours en arrière-fond, que la source, l'origine de toute forme d'amour, elle est en Dieu, dans ce mystère que nous cherchons à contempler autant que nous pouvons avant de le voir face à face pour l'éternité. Luc, tu voulais dire qu'on ne peut pas tout comprendre tout de suite, c'est ça que tu voulais dire, Luc ?
Le Père Louis retraduit la réaction que j'ai eue en lisant cet enseignement. En même temps, je trouvais ça très beau, et en même temps, je me disais, mais j'avais un peu une frustration, disant que je ne comprenais pas tout. Donc le mystère, c'est effectivement quelque chose qui en même temps nous parle un petit peu, et qu'on ne maîtrise pas du tout. Il faut probablement accepter que le temps fasse son œuvre, et pour cela, nous disposons de 2 ans. Nous permettront de faire un certain chemin.
Un grand théologien qui a dit le mystère, c'est ce qu'on ne comprend pas, mais qui fait tout comprendre. Qu'on accueille dans la foi, Mais ensuite, c'est la lumière de la foi qui éclaire tout. Alors, revenons à notre expérience de l'amour tel qu'il nous est donné à vivre sur terre. Benoît XVI, dans son encyclique Dieu est amour, se pose la question de savoir s'il y a une forme de l'amour originelle qui soit comme l'archétype de l'amour. Et il répond oui. Il dit que l'amour entre l'homme et la femme apparaît comme l'archétype de l'amour par excellence. Vous voyez, on n'aurait pas cru ça de l'Église. C'est la passion amoureuse, l'amour-passion, qui est présentée comme l'archétype parce que l'amour ne peut pas se réduire à l'amour-passion. Il y a aussi l'expérience que nous faisons d'un amour de bienveillance. Vous savez qu'en italien, il y a deux mots pour dire « je t'aime ». Ti amo, je t'aime, et c'est amoureusement. C'est pas à dire à tout le monde. Et quand on veut dire simplement « je t'aime » au sens que je veux ton bien, hein, l'ami qui vous veut du bien, hein, on dit « ti voglio bene », littéralement, « je te veux du bien ». Ce qu'on appelle l'amour de bienveillance. Il y a d'une part « ti amo, je t'aime », d'un amour passion, la passion c'est je te désire, je désire venir à toi, je désire vivre quelque chose de cette union qui est en Dieu. Et d'autre part, ti voglio bene, je désire ton bien. Je désire l'autre comme mon bien, c'est la passion, je désire le bien de l'autre, c'est l'amour de bienveillance. Deux formes de l'amour. Et Benoît XVI insiste dès le début de son encyclique pour dire que ces deux formes, en fait, il faudrait qu'elles restent unies. Et ça, je pense, ça rejoint tout à fait notre expérience. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de théologie pour comprendre qu'on ne peut pas aimer simplement, en tout cas dans une vie de couple, s'il n'y a que la passion, mais qu'on n'est pas un peu attentif à l'autre, à ses besoins, et qu'on n'a pas un souci aussi de le servir, il y a quelque chose qui manque, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais nous chercherons à voir comment ces deux formes peuvent s'harmoniser et doivent rester unies. Mais pour l'instant, nous allons commencer par la forme première essentielle, qui est la forme de l'amour comme passion. Et pour cela, nous allons donc un peu analyser cette passion. Qu'est-ce que la passion ? La passion, c'est la réponse à une attraction. J'aime parce qu'il y a un bien qui m'attire. Il y a une réalité qui est belle, qui est bonne et qui m'attire. Et je commence à aimer quand je commence à me complaire, c'est-à-dire à mettre ma joie dans cette réalité qui m'attire. J'en perçois la beauté et la bonté, et je me mets à la désirer. Remarquez que je me complais, parce que je me complais, je désire. L'amour, c'est plus que le désir, mais ça se traduit tout de suite en un désir, puisque l'amour recherche l'union, et à mesure où il recherche l'union, il désire. Et ce désir, c'est le premier mouvement dans notre âme. Qu'est-ce qui fait qu'on vit ? C'est parce qu'on a des désirs. Qu'est-ce qui fait qu'on déprime ? C'est quand on n'a plus de désir. On n'a plus d'élan. Autrement dit, il y a de la vie là où il y a une relation vivante dans laquelle je me mets en mouvement vers un autre qui m'attire. Et nous avons tous besoin d'éprouver une attraction, tous besoin d'éprouver cette vie de désir. une sorte d'élan vital qui nous permet d'aller de l'avant, de passer à l'action. Ici, je me permets de citer saint Augustin que cite Benoît XVI. Écoutez bien, l'homme se meut spontanément et non sous la contrainte quand il se trouve en relation avec ce qui l'attire et ce qui suscite en lui du désir. Et je me permets de donner un petit témoignage personnel. C'est que, vous voyez, comme prêtre, comme jeune prêtre, je poursuivais surtout un projet. Le projet, c'était d'aider les autres à découvrir Dieu. Le projet, c'était aussi de devenir un saint. Et j'espère que vous comprenez bien, tout ça, c'est pas encore une passion amoureuse. On peut poursuivre un projet, on peut avoir de belles idées, de beaux principes, et passer sa vie à essayer de rejoindre le but qu'on s'est fixé, l'idéal qu'on s'est fixé. Et quand je lis saint Augustin qui dit « L'homme se meut spontanément, non sous la contrainte, quand il se trouve en relation avec ce qui l'attire », eh bien, je le ressens de manière évidente, le fait que si je n'ai pas une passion pour le Christ, en définitive, je vais tout faire par devoir, sous contrainte, et non pas passionnément, avec un élan, un désir qui fait que c'est avec joie que je vivrai ma vie de prêtre. Pourquoi ? Parce que l'amour premier est là. Qui veut confirmer la chose ?
Oui, alors, moi j'étais justement très passionnée, très, très romantique, et je rêvais d'un homme du style, par exemple, de Jean Ferrat. C'est déjà un peu ancien pour vous, mais après il avait des moustaches magnifiques, il avait sa guitare, des grandes mèches brunes et rebelles. Au moins, ça vraiment, ça me faisait rêver. Et puis, en fait, quand Jean-Pierre s'est présenté, il n'avait pas tout ça. À ce moment-là, il avait quand même une mèche. Mais bon, il n'y avait pas de moustache, il n'y avait pas de guitare, pas vraiment. Et cela étant, quand je l'ai vu, il y a quelque chose qui s'est passé et qui s'est imposé à moi, que j'ai subi en quelque sorte. C'était pas mon choix, vraiment, mais c'est la première personne pour laquelle je me suis dit « J'aimerais qu'il soit le père de mes enfants. » Alors, je n'avais pas l'habitude de penser des choses comme ça. Hein. C'était plutôt en recherche de justement du grand amour, mais je ne pensais pas encore aux enfants. Mais j'ai compris, finalement, que le Seigneur me donnait Jean-Pierre comme vraiment un meilleur bien. Et j'ai compris que c'était vraiment un cadeau du Seigneur qui était vraiment fait pour moi. Justement parce que Jean Ferrat, j'en trouvais pas beaucoup. Ou au contraire, c'est moi qui leur plaisais pas. Donc ça marchait pas. Et donc j'ai vraiment dit au Seigneur, écoute, j'avais 24 ans à ce moment-là, il y a 30 ans, 24 ans, j'étais vraiment une célibataire endurcie finalement. Et donc j'ai vraiment dit au Seigneur, écoute, montre-moi, j'accepte ce que tu veux pour moi. Et donc, j'ai dû, si vous voulez, cette passion m'a vraiment été donnée par le Seigneur. Et ça me construit encore aujourd'hui. Je sais que Jean-Pierre n'a pas toutes les qualités. Je ne l'ai pas non plus, donc il n'y a pas de raison. Mais surtout, j'ai compris qu'il fallait que je mette mon romantisme et donc mes fausses passions sous le regard du Seigneur pour vraiment m'ouvrir. Pour pouvoir vivre cette passion au début, je me suis dit, mais je comprends pas parce que finalement je suis pas passionnée. Or en fait, je me rends compte que j'étais. Finalement, c'est quand j'attendais Jean Ferrat que je me trompais. C'est pas ça aimer. Aimer, c'est vraiment accueillir le bien que le Seigneur veut vous donner. Et je pense que c'est ça la passion. Mais donc, il faut aussi savoir la purifier, quoi. Est-ce que je suis assez claire ?
Autrement dit, il faut se méfier d'un idéal, par exemple d'un idéal de vie conjugale, d'un idéal de famille, de passer sa vie à poursuivre un idéal, avec des idées romantiques. Vous avez parlé aussi de ta fille. Alors, par rapport à ça, ce que le témoignage de Catherine, ça nous laisse voir que dans la passion, en fait, comme le mot l'indique, au départ, je suis passif, c'est-à-dire je me laisse attirer, à condition que je dois consentir à cette attraction. En prenant le temps de laisser cette attraction s'exercer, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'amour, ce n'est pas quelque chose d'abord qui relève d'un acte de volonté. C'est pas en disant je veux aimer que j'aime plus, mais c'est en trouvant le chemin par lequel l'attraction va pouvoir s'exercer. Le premier chemin, c'est d'essayer de mieux connaître l'autre, évidemment. En tout cas, d'entrer dans une attitude de réceptivité. La connaissance, c'est passif aussi. Je reçois la révélation de ce qu'est l'autre vraiment. C'est plus, vous voyez, mon changement de regard qui est déterminant que le fait de vivre l'amour comme quelque chose qui dépendrait de moi, alors qu'en réalité, l'amour ne dépend pas de moi, il dépend d'abord de la réalité qui m'attire. L'amour, en son fond, est plus une affaire de consentement, donc je dis de réceptivité, que d'un vouloir humain.
Moi, je confirme, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand devant le Saint-Sacrement, j'ai été touchée par la parole, tout ce qui est à moi est à toi, cette parole de l'Écriture, c'est la parole du Fils aîné dans la parabole de l'enfant prodigue, et en méditant devant le Saint-Sacrement, je me suis vite rendu compte que toute ma vie de foi avant cette expérience était... J'étais une volonté propre. J'étais attirée par Dieu, mais je voulais le rejoindre à ma façon. Donc je m'étais fabriqué des exercices, enfin je faisais tout à la force du poignet, donc il faut aller à l'adoration, j'y vais, je me donnais beaucoup de mal. Et devant Saint-Sacrement, j'ai fait l'expérience que, en fait, j'avais pas d'amour, que j'étais dans la volonté de faire, etc. Mais je ne vivais pas une relation d'amour. Et dans les jours qu'on suivit, en lisant la parole de Dieu, j'ai eu l'impression de lire les paroles de mon fiancé quand nous étions fiancés. Et j'ai compris brusquement, brutalement, que Dieu c'était une personne et que j'avais une relation d'amour à établir et que ça... Et du coup, ma vie chrétienne a complètement changé. Ça a été très difficile parce que avant, j'étais dans le perfectionnisme. Donc passer de l'exercice de la volonté à se laisser faire, ça a été difficile. Mais ça rejoint ce que Louis nous disait là à l'instant.
Donc, comment laisser se renouveler cette attraction dans une vie de couple, comment avancer dans le sens d'une plus grande réceptivité aux autres, plus grande ouverture, tout simplement. La question de l'accueil et la conversion du regard. Jean-Paul II était très attentif à cette question du regard sur l'autre, et il aimait dire, quand il a été au Kazakhstan, il a relevé que dans la langue kazakh, pour dire je t'aime, on dit je te regarde bien. Et donc, je te regarde bien, et donc je te laisse susciter en moi un amour renouvelé pour toi. Catherine a une fille qui a eu du mal à laisser s'exercer cette attraction d'un premier temps.
Donc notre fille Marie, qui vient d'avoir un bébé il y a 15 jours, là, un jour me dit « Maman, il y a quelqu'un qui met des chocolats dans ma boîte aux lettres. Elle est très gourmande. » Donc il la connaissait déjà bien. Et alors je lui dis « Mais il ne faut pas manger du chocolat si tu ne sais pas d'où ça vient. » Pas question de se mettre dans la bouche quelque chose comme ça. Alors elle m'a regardé d'un air un peu gêné, puis elle m'a dit ben, « Je crois bien, c'est un peu... Je crois bien savoir qui me les dépose dans ma boîte aux lettres. » Je dis « Ah bon ?» Mais alors, je ne sais pas bien quoi faire, parce qu'en fait, tu sais, maman, c'est un garçon, mais je n'ose pas bien avancer avec lui parce que je le trouve... En fait, je le trouve pas beau. Alors, bon, je lui dis « Ah bon ?» à vrai dire, il m'est arrivé de rencontrer ce garçon. Moi je trouve qu'il a, mon gendre a un très beau visage. Il n'est pas grand. C'est pas un grand mec. Il n'est pas baraqué. Un beau petit homme, quoi. Mais là aussi, c'est pas ça dont elle rêvait. Alors, vraiment, je lui ai dit, mais tu vois, en fait, Marie, je crois qu'il faut ouvrir ton cœur. Il faut rester très honnête et vrai. Donc, tant que tu n'es pas amoureuse, tu n'es pas amoureuse, et il faut savoir le dire, mais laisse-le se faire connaître. Donne-lui la chance de se faire connaître. Et finalement, ben, ça n'a pas mis beaucoup de temps, comme c'est un vrai trésor aussi, et en tout cas, lui a su vraiment prendre tout son cœur. Voilà, et je pense que l'âme... Notre fille a vraiment su, en fait, s'ouvrir là aussi à ce que Dieu voulait pour elle. Je pense que c'est vraiment, ça ressort d'une ouverture du cœur et pas d'une décision, voilà, je veux ça dans ma vie et je veux pas ça. Cette façon de trier qui est terrible finalement parce que si vous n'avez pas toutes les qualités, si vous ne mesurez pas 1m80, vous avez plus de chance, quoi. C'est pas possible. Hein. C'est vraiment pas l'image, je pense, de l'attitude que le Seigneur nous demande.
Vous vouliez parler de l'ouverture du cœur?
Je crois qu'ils ont compris, là.
Donc, nous verrons comment, dans cette question de l'ouverture à l'autre et du regard sur l'autre, précisément, la relation à Dieu joue. Nous verrons ça par la suite. Mais avant de nous engager donc, sur ce terrain de comment aimer l'autre en Dieu, comment vivre la passion en Dieu, je voudrais revenir sur cette question de la passion pour souligner une chose, c'est que l'amour s'accomplit donc dans l'union. L'amour cherche spontanément l'union. Il ne faut pas l'oublier parce que il y a une tendance à évidemment à magnifier l'amour, mais l'amour c'est pas le but ultime. Le but ultime c'est l'union. L'amour, c'est le moyen qui permet l'union. Voilà. Et l'amour n'est source vraiment d'une joie plénière, je dirais de la joie originelle, que quand il parvient à son but. À ce moment-là, vraiment, je peux jouir de l'autre, jouir de cette communion, en demeurant en l'autre, et comme l'autre demeure en moi. Et cette joie de l'union, elle signifie en même temps un repos en l'autre, une paix. À proprement parler, le bonheur, c'est ça. C'est ce qui est inscrit au fond de notre cœur, ce besoin d'une vie de communion, qui n'est évidemment jamais parfaite sur cette terre. On est bien tous d'accord. Mais comprendre que j'ai besoin d'être uni à l'autre pour vivre, pour être heureux, quelque part, c'est déjà une certaine conversion. Catherine, tu avais une...
Oui, alors, bon, on s'est rencontrés, on travaillait tous les deux, on avait des jobs prenants, donc on a pris l'habitude un petit peu de gérer chacun son truc. Tu gères, je gère, je gère les enfants, tu gères d'autres choses, enfin... On était un peu un couple au départ, un peu comme ça, quoi. On assumait. Et puis, on a eu en particulier, enfin, on a eu des enfants pas scolaires du tout, donc c'était dur de les pousser, de les hisser, surtout les garçons, de les pousser dans les études. Donc moi, là, ma façon de gérer, ça devenait beaucoup plus difficile. Jusqu'au moment où j'ai vraiment compris, en fait, que j'avais besoin de mon mari. J'avais vraiment besoin que c'était mes limites. Et ça a été dur d'accepter, au départ, ça a été dur d'accepter que, ben oui, je ne sais pas que faire. Voilà. Et finalement, ça m'a beaucoup fait évoluer, ça m'a appris la simplicité, à reconnaître ce que je ne savais pas faire. Et ça m'a donné la joie de pouvoir m'appuyer sur mon mari. Et en même temps, de découvrir la force d'un couple. Parce qu'il n'avait pas toutes les solutions non plus. Hein. Mais à deux, finalement, on y arrivait. Et on a passé comme ça les difficultés de l'adolescence, vraiment, en se serrant les coudes. Et en même temps, j'ai découvert vraiment la joie de se dire, bon, on a gagné tous les deux, quoi. Et c'est bon, maintenant, très souvent, je me dis, bon, ben, j'essaye de ne plus avoir cette réaction de dire, ça y est, je sais, donc j'y vais, vite. Ou ça ira plus vite si je prends la décision toute seule. Je me dis, bah oui, il y a cette joie. J'ai la chance d'avoir un mari, c'est quand même chouette. On est deux. Et j'apprends à m'en réjouir et à compter dessus.
Au fond, c'est accepter de dépendre de l'autre. L'union fait la force. Sans l'autre, il y a quelque chose qui me manque. Et ça, c'est voulu par Dieu. Il nous veut dépendants les uns des autres. Et accepter cette dépendance les uns des autres, besoin de vivre une union à l'autre pour trouver toute la paix et donc aussi la force, hein, comme une fondation en soi, je dis ça, c'est un chemin d'humilité qui en définitive nous renvoie à notre dépendance à Dieu. Une manière d'accepter de dépendre de Dieu, c'est peut-être accepter de dépendre de l'autre. En tout cas, c'est une manière de briser notre orgueil, notre volonté d'autonomie, d'indépendance, hein, cette indépendance que le monde magnifie, hein, en nous faisant croire qu'on est fait pour tout gérer soi-même et tout assumer, tout prendre sur soi.
Oui, alors, en termes de dépendance des autres, de l'autre, en travaillant là et en préparant, on avait évoqué l'exemple qui est par nature celui de la dépendance de l'autre, c'est celui de l'enfant dans le sein de sa mère, puisque... Finalement, c'est une situation vraiment, il est complètement dépendant, complètement abandonné. Alors moi, je me posais la question en me disant, c'est un bel exemple, mais ça ne me parle pas trop. Enfin, ça ne me parle pas trop, ça ne me parle pas dans la... Donc j'ai essayé de réfléchir, et finalement, je me suis retrouvé, alors c'est un exemple tout bête et tout simple, et j'ai un petit-fils qui a maintenant 5 ans, et qui adore les câlins. Et donc, il y a eu une espèce de jeu qui s'est établi entre nous. Et chaque fois qu'on se revoit, on ne se revoit pas très souvent, mais la première chose qu'il vient faire, c'est ça, c'est-à-dire il monte sur les genoux, puis là, il passe du temps, et il s'abandonne, etc. Et quelque part, ça m'a fait comprendre un peu mieux cette espèce de situation de dépendance, de ce besoin, en fait, cette espèce de situation de passion toute simple, hein, et en même temps très, très forte, et où il accepte, lui, et finalement, ce chemin qui... Enfin, moi, pour moi, c'est un peu un chemin de réflexion pour me dire, moi, en tant qu'homme, parce que les hommes, on est plutôt dans le vouloir davantage, c'est, voilà, ça m'a parlé.
Ça se transforme tout le temps en baston, d'ailleurs, je vous montre en parenthèse. Donc maintenant, à chaque fois qu'il me voit, il dit, une baston.
Voilà, il y a, vous savez, au moment de la quarantaine, les couples, parfois, ont un peu de mal, et on a eu un moment difficile dans notre couple. Et le plus beau cadeau que Jean-Pierre m'ait fait dans toute notre vie de couple, c'est que le jour où il était en difficulté par rapport à notre couple, c'est auprès de moi qu'il est venu chercher de l'aide. Et ça, je ne l'ai jamais oublié, et je ne l'oublierai jamais. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est de reconnaître sa difficulté. Et ensemble, on a pu traverser cette période d'orage et je dirais même de tempête. Mais j'ai jamais oublié que c'est lui qui est venu me chercher pour en sortir.
Donc, vous voyez, chercher la joie, le bonheur dans la relation à l'autre, ce n'est pas nécessairement une recherche égoïste ou chercher à jouir de l'autre d'une manière possessive, tout ça. Ça peut être plutôt un chemin d'humilité où j'accepte de recevoir de l'autre, de dépendre de l'autre. Mais nous sommes ainsi faits que cette joie de l'union dans l'amour se complète.
Ça souffle.
Ah, oui. Ce n'est pas la seule joie que nous trouvons dans l'amour, il y a aussi une joie dans le désir lui-même. Plus précisément, pour reprendre les termes de Benoît XVI, plutôt que de parler de joie, une certaine ivresse. Une ivresse de l'amour en tant que désir. Un désir qui me sort de moi-même, qui me tire vers l'autre, et qui peut aller jusqu'à une certaine extase, c'est-à-dire sortie de soi. Donc, nous vivons sur Terre des moments de joie d'union, des moments de bonheur, mais qui ne sont jamais pleinement comblants, et nous vivons des moments d'ivresse. Je souligne simplement que cette ivresse qui montre qu'en réalité l'amour me fait vivre aussi en tant qu'il me sort de moi-même, qu'il me tire, cette ivresse, elle va dépendre de la puissance d'attraction, évidemment, de la réalité. Éprouver une ivresse dans sa relation avec son chat, ce serait signe plutôt d'une pathologie. Parce que... mais évidemment, ça laisse penser que cet aspect extatique de l'amour, tant qu'il me sort de moi-même, évidemment, il trouvera sa plénitude dans la relation à Dieu. Devine. Et je dis, il y a une belle méditation de Benoît XVI pour dire qu'au ciel, on jouira de l'union à Dieu, mais plus on connaîtra Dieu, plus on sera uni à lui, plus on a le désir d'être uni encore plus à lui. Et donc, il y aura aussi toujours un mouvement. Et de manière analogue, vous voyez, dans la Trinité, le Père et le Fils sont unis, mais en même temps, ils sont continuellement en mouvement l'un vers l'autre. Il y a une extase continuelle. Il y a un désir, c'est un élan renouvelé du Père vers le Fils, du Fils vers le Père. C'est un mouvement continuel. Donc nous sommes faits à la fois pour un amour qui parvient à son achèvement dans l'union, mais un amour qui en même temps en demande toujours plus et se renouvelle dans un désir qui va toujours plus loin. Comme Dieu est infini, au ciel, nous n'aurons jamais fini de le désirer. On ne pourra jamais dire « j'ai fait le tour de Dieu, maintenant passons à autre chose, vivons une autre extase ». Mais la personne humaine aussi, elle est quelque part, elle est un mystère, et le renouvellement du désir et de l'extase passe par le renouvellement du regard et de la connaissance de l'autre, comme nous le verrons par la suite. Alors je terminerai... Je terminerai en montrant, nous verrons mieux par la suite, que l'amour sous ces deux formes est évidemment sujet à des déviations. L'amour, en tant qu'il recherche l'union, sa déviation, c'est la possession. L'esprit de possession est plus que présent dans le monde actuel. L'union, c'est pas la possession. Posséder l'autre dans un amour possessif, en fait, c'est rater l'union. C'est passer à côté de la vraie communion. L'esprit de possession me ferme sur moi-même en réalité et m'empêche de m'ouvrir réellement à l'autre. Et donc empêche la véritable union. Le deuxième danger qui guette l'amour entre l'homme et la femme, c'est l'exaltation d'Eros. Benoît XVI parle même de la divinisation de l'Eros dans notre société. C'est-à-dire on magnifie l'ivresse. On recherche l'extase. Vous voyez bien qu'on la recherche à travers des formes d'amour de plus en plus, quelquefois perverties, hein, parce qu'en réalité, on recherche l'extase pour lui-même, pour elle-même. On cherche plus à vivre un sentiment d'aimer qu'à aimer l'autre. L'autre, finalement, n'est que l'occasion de vivre une ivresse. C'est l'amour recherché pour lui-même en tant que sentiment qui fait vivre. Et à ce moment-là, effectivement, il faut changer de partenaire assez régulièrement parce que l'ivresse, elle passe. Et aussi, c'est une manière de vivre l'amour qui fait que l'amour ne peut pas se renouveler parce que l'amour, fondamentalement, pour être amour, il doit tendre vers l'union. Et là, encore une fois, on ne tend plus vers l'union. On se complaît dans un sentiment. Ça, c'est une tentation forte.
Oui, la possession, peut-être qu'on se demande ce que ça veut dire, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est que posséder quelqu'un? Moi, je crois que c'est très simple dans la vie de tous les jours. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Enfin, ça paraît. Quand on a l'impression de savoir comment l'autre devrait réagir, je crois que c'est une façon de lui dire je veux que tu sois comme j'ai envie que tu sois. Quoi. C'est une façon de posséder. Donc, en fait, on est bien soumis à ce genre de choses. Mais pourquoi tu n'as pas réagi comme ça? Ou pourquoi tu as fait ça? Alors, voilà, au lieu d'être en position d'accueil, d'étonnement, d'interrogation. Donc je crois que la possession nous guette souvent dans le quotidien. Et je pense que l'ivresse n'a pas 4 ans.
Quand ils sont de savoir bien la cultiver.